Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard et nous écoutons ensemble le Sans détour du 3 mai 21. Nous l'écoutons ensemble parce que nous allons parler ensemble avec M. Roch Ducharme, qui est directeur général d'un centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Après ça, on s'en va du côté des jeux vidéo, du parasport. On va parler à Francis Ménard et à Danny Audet, qui sont respectivement directeur général de Parasport Québec. Et Danny, lui, est un passionné de jeux en ligne, de jeux vidéo, mais aussi c'est un athlète de Power Chair Soccer. Puis on va voir comment ces deux activités-là se sont fusionnées. Par la suite, on se déplace, on s'en va à Rimouski. On parle à Mme Thérèse Sirois, la directrice régionale de la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Et tout ça à Sans détour. J'ai avec moi M. Roch Ducharme, directeur général du CRISPECH. Je ne sais pas si cet acronyme ça prononce comme ça. Comment allez-vous, M. Ducharme?
Je vais bien, vous-même?
Ça va bien. On parle du Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est un centre de recherche collégial. Et souvent, on associe les centres de recherche plutôt à l'université. Mais dans ce cas-ci, on parle de gens qui sont au niveau du collégial. Ça a commencé au Cégep du Vieux-Montréal, je pense.
Oui, le CRISPECH, en fait, le CRISPECH est un CCTT, dans notre jargon à nous, un centre collégial de transfert de technologie.
D'accord.
Et on fait partie d'un réseau de centres de recherche affiliés à différents cégeps et collèges de la province.
OK. Le réseau, je pense, s'appelle le Synchronex.
Voilà.
OK,
voilà.
D'accord. Et tous ces gens-là, chacun à l'intérieur des murs de son institution, travaillent à différents projets. Et le CRISPECH, ça regroupe les chercheurs qui s'intéressent davantage à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui a été le point de départ?
Bien, le point de départ, en fait, on célèbre cette année notre 10e anniversaire.
Oh, bravo.
Oui, merci. Et je dois ajouter qu'on est affiliés, nous, à deux cégeps. Donc, au cégep du Vieux-Montréal, comme vous l'avez mentionné, mais également au Collège d'Anson.
Oh, d'accord.
Et il y a 10 ans, c'est ça, les deux cégeps, les deux collèges avaient une spécialité un peu avec les étudiants en situation de handicap, et ils se sont mis ensemble pour faire la demande de la création d'un CCTT qui est devenu par la suite le CRISPECH depuis 10 ans maintenant.
Et ça fonctionne par projet? Vous collaborez à des projets d'études, à des recherches, vous disséminez l'information que vous créez ou que vous retrouvez ailleurs pour la partager à d'autres collèges, ou est-ce que parce que ça sert à ça, finalement, un réseau de transfert de technologie?
Tout à fait. Bien, premièrement, notre premier point, c'est de la recherche appliquée. Donc, on fait beaucoup de recherche appliquée. Et avec cette recherche-là, on a des données probantes. Et par la suite, bien, on va créer des formations ou de l'accompagnement et le transfert de connaissances. Et tout ça en collaboration avec nos deux cégeps d'affiliation.
La semaine dernière, on avait le plaisir de parler aux gens de Nissidotam, qui est une page web, qui est un site d'aide à la recherche d'emploi, entre autres, pour les personnes en situation d'handicap issues des Premières Nations du Québec. Et ça aussi, c'est en partie une de vos activités, votre collaboration à Nissidotam.
Tout à fait. Donc, c'est une collaboration qu'on a eue avec la CDRH-PNQ, donc la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec. Je crois que vous avez parlé avec Mme Rosanne Gosselin.
Tout à fait.
Une partenaire là, dans ce projet-là. Donc, c'était en fait, il y avait 3 projets de recherche qui ont abouti finalement au beau site web, là, plein d'outils collaboratifs et d'outils interactifs. Un beau projet qu'on vient de terminer en collaboration avec eux.
Est-ce que les projets auxquels le CRISPECH s'attaque, Est-ce que ce sont des projets qui ont souvent, je dirais, un lien avec l'enseignement? Parce qu'il est souvent question dans votre propre site des TIS, des techniques d'information, et ça semble être une des voies importantes de votre recherche.
Bien, c'est-à-dire qu'on a trois axes de recherche. Mm-hmm. Donc, l'inclusion scolaire,
d'accord,
évidemment, ça va de soi. L'inclusion professionnelle et l'inclusion sociale. Mais vous avez raison de dire qu'en ce moment, la majorité de nos projets se situent auprès de notre premier axe, qui est l'inclusion scolaire. Et à travers ces trois axes de recherche-là, on a quand même trois thèmes transversaux qui ressortent beaucoup. Mm-hmm. L'un, c'est l'inclusion et les handicaps invisibles. L'inclusion et la jeunesse, évidemment, parce qu'on est affilié au collégial. Mm-hmm. Et l'inclusion et les Premières Nations, là, suite aux 3, 4, 5 dernières années où on a eu beaucoup de projets avec les Premières Nations.
D'accord. Et qu'est-ce que... Je sais que votre façon de travailler, entre autres, c'est d'informer le public. Vous produisez des balados, des midi-conférences. Peut-être nous en parler un peu.
Bien, dans nos activités de transfert, évidemment, on a nos médiconférences, notre série de médiconférences. Il y en a une, justement, ce mercredi, sur les TIS, donc les technologies de l'information et de la communication en éducation, donc les technologies dont on se sert en salle de classe, et le niveau d'anxiété des élèves, mm-hmm, des étudiants. Donc, on est en plein projet, on est à l'an 2 de ce projet-là, donc on ne sait pas encore quelles en sont les conclusions, mais ce mercredi, on va, ceux et celles qui veulent se joindre à nous, on va pouvoir au moins discuter où on en est dans le projet. Donc, ça fait partie de cette série de conférences-là. Il y a également, comme vous l'avez mentionné, les balado-diffusions. Ça, c'est une autre série qu'on a commencé cette année. On est à notre troisième, on travaille à la quatrième. Entre autres, on a eu comme invité Patrick Fougier-Roulas du Réseau international du processus de production du handicap, qui est un modèle social du handicap. On a eu Sylvain Lemay, qui représentait la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Et on a eu Sylvain Lecheter aussi de l'Université de Rimouski, qui sont venus nous accompagner dans ces trois balados de diffusion. Et comme je dis, on travaille sur la quatrième en ce moment. Mais je ne pourrais pas passer sous silence notre symposium qu'on organise également.
Qui aura lieu
sur la pédagogie, hein, qui aura lieu en début juin, du 1er au 3 juin.
D'accord.
Et justement, encore une fois, sur la pédagogie inclusive. Donc, ça fait une dizaine d'années dont on parle de CUA, de façon, la conception universelle de l'apprentissage et de toute la pédagogie inclusive. En anglais, on dit UDL, Universal Design for Learning. Mm-hmm. Et justement, on le fait avec la collaboration du Collège Dawson et leur communauté UDL pour un peu se poser la question, là, 10 ans après, là, on est rendu où en pédagogie inclusive? Donc, la période d'inscription est ouverte, donc pour ceux que ça pourrait intéresser.
Alors, ce symposium-là qui a lieu dans les toutes premières journées du mois de juin, est-ce que ça va être virtuel? Probablement. Est-ce qu'une partie va être en présence?
Non, malheureusement. Ben, heureusement ou malheureusement, par la force des choses, ça sera en virtuel.
D'accord.
Ça va nous permettre de rejoindre peut-être un plus grand public. Mm-hmm. Donc ça, c'est l'avantage du virtuel. Évidemment, on n'a pas autant les avantages du présentiel, mais en période de pandémie, on fait avec ce qu'on a, finalement.
Ça peut vous permettre d'avoir des collaborateurs qui sont en fait plus loin. Ça peut vous permettre aussi d'amener des gens qui pourraient ne pas vouloir se déplacer jusqu'à un centre de congrès dans un milieu urbain. Parce que vos événements, l'information que vous disséminez, que vous faites circuler par les balados, les médiconférences, votre public cible, ce sont plutôt les gens engagés dans le processus de l'inclusion plutôt que les personnes en situation d'handicap elles-mêmes.
Bien, c'est un peu des deux, puis mm-hmm, on le voit dans nos médiconférences, on a vraiment une clientèle très diversifiée. Ça s'adresse, le symposium s'adresse plus aux intervenants, je mm-hmm, dirais,
d'accord,
aux enseignants. Mais en général, là, nos balados, nos médiconférences, ça s'adresse à un public plus large.
Est-ce que depuis le début de la pandémie, on voit l'effet que la pandémie a sur votre symposium? Enfin, ça en chance. Ça vous oblige à repenser ou du moins son format, sa présentation. Est-ce que ça l'a influencé? Est-ce que la pandémie vous a obligé aussi à repenser les axes ou le type de recherche que vous faites? Parce que tout le monde a été obligé de se réinventer.
On a dû tous se réinventer et on est en train justement, puis ce sera l'objet là, de la médiconférence de ce mercredi, un peu de voir est-ce que, parce que notre hypothèse, c'est que c'était plus difficile pour certains, mm-hmm. mais ça a peut-être été plus simple pour d'autres.
Oui.
C'est de voir et par la suite, c'est de voir les bonnes pratiques. Essayer de comprendre le positif qui est sorti de ça, s'il peut y en avoir. Et de voir comment on va pouvoir s'en servir dorénavant dans la façon de fonctionner après la pandémie. Donc, il y a des choses en ligne qui ont permis, par exemple, à une clientèle dyslexique d'avoir des documents numériques et de pouvoir mieux fonctionner de cette façon-là que d'avoir des documents papier qui auraient été normalement distribués en classe. Donc, ça aurait pu aider une certaine... certaines populations. D'autres, par exemple, en lien avec l'anxiété, peut-être que ça a été moins heureux, on ne sait pas, mais c'est des hypothèses qu'on pose et on espère avoir des réponses d'ici quelques temps.
Parce que l'inclusion scolaire, en fait, il y a une différence entre l'inclusion et l'intégration. Je pense que il y a de cela plusieurs années, on cherchait davantage à intégrer les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire mettre un objet rond d'une façon ou d'une autre dans un orifice carré, là, puis il fallait que ça rentre. Puis maintenant, on parle plutôt d'intégrer, l'intégration plutôt a passé à l'inclusion, c'est-à-dire offrir différents types, différents modes d'apprentissage pour qu'on puisse trouver celui qui va convenir à telle ou telle situation. Ça a été un changement important dans le cheminement de votre centre.
Oui, puis ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus et je dirais que moi, je le vois comme une continuité, c'est-à-dire qu'on n'aura jamais toute inclusion ou toute intégration, mais ça sera en continuité. L'idée, c'est d'augmenter la portion inclusion pour diminuer la portion intégration. Mais il y aura toujours besoin minimalement d'un peu d'intégration. Pensons à la déficience visuelle, par exemple. On ne se mettra pas à tout faire en braille, mais on peut faire un accommodement raisonnable pour produire des documents en braille dans des situations très précises. Donc, ça, c'est un exemple d'intégration. Mais si on se met à distribuer des documents Word ouverts avec les logiciels maintenant, des lecteurs d'écran du type JAWS ou NVIDIA, ça permet une plus grande, donc ça permet une façon inclusive peut-être là, de fonctionner en salle de classe.
Oui.
Donc c'est de jouer avec les deux concepts en augmentant d'année en année la portion inclusion de la chose.
Oui, à titre de personne handicapée visuelle, moi-même, je peux vous dire que je fais pas de braille, mais c'est important d'avoir des sites web ou des pages ou des documents qui sont faciles à convertir ou dont l'accès est facile pour ce qui est d'une méthode ou d'un logiciel d'apprentissage Zoom ou ainsi de suite. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Ducharme. On va certainement reparler de votre symposium quand on sera dans les journées qui précéderont et on pourra ainsi voir à ce qu'on fasse un suivi et de voir où vous mènent vos recherches. Alors, mais c'était M. Roch Ducharme, qui est directeur général du CRISPECH, qui est un centre de recherche intégré pour les personnes en situation de handicap au niveau collégial. Merci beaucoup.
Merci.
Boy, mon nom c'est Smokey. La rumeur gronde, tous les gars sont sortis. On sort de l'ombre, faites chauffer les amplis. Pour donner un peu d'air, c'est clair, c'est clair. La route est longue à ce qu'on dit. Pour plaire au monde et à n'importe qui. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille.
qu'il va y avoir du sport.
Mais moi je reste tranquille.
Il va y avoir du sport.
Mais moi je reste tranquille. Faut pas que je force, que la vie soit facile. Je veux faire de l'or sans bouger mon nombril. Me donner un peu d'air, c'est clair,
c'est clair.
J'ai rendu à mes amplis pour plaire aux cailles, éviter les ennuis. J'ai passé l'âge, laissé des ardoises. Il faut que je me pose quand tout le monde se lâche.
Il va y avoir du sport,
mais moi je reste tranquille.
Il va y avoir du sport,
mais moi je reste tranquille.
Il va y avoir du sport,
mais moi je reste tranquille.
Il va y avoir du sport,
mais moi je reste tranquille.
Il va y avoir du sport,
mais moi je reste tranquille. Le soleil plombe et les girls sont faciles. Dans la pénombre, préférez les dociles. Je veux toujours moins en faire. C'est clair,
c'est clair.
Allonge du cash pour se manquer. Autant que je sache, c'est une bonne thérapie. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent.
Il va y avoir du sport,
mais moi je reste tranquille.
Il va y avoir du sport,
mais moi je reste tranquille.
Il va y avoir du sport,
mais moi je reste tranquille.
Il va y avoir du sport,
mais moi je reste tranquille.
Il va y avoir du sport.
Il va y avoir du sport.
Oui, il va y avoir du sport. On va parler avec M. Francis Ménard. M. Ménard, vous êtes directeur général de Parasport Québec et on parle également avec Danny Audet, qui est un athlète de Power Chair Soccer. Et là, on parle de deux concepts ou de deux choses qui sont maintenant réunies et ce sont des univers spectaculaires et peut-être méconnus. Dans l'univers du parasport, il y a ce qu'on appelle le Power Chair Soccer et dans l'univers des jeux vidéo, il y a un jeu vidéo qui s'appelle Rocket League. Et les deux se sont rencontrés. Et expliquez-nous un peu, M. Ménard, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, bien, bonjour.
Bonjour.
Vous savez, là, avec la pandémie et toutes les contraintes sanitaires, plusieurs de nos athlètes, là, particulièrement par Power Chair Soccer, étaient confinés depuis plus d'un an. Puis il y avait de la difficulté à rentrer en lien avec eux. Donc, ils vivaient beaucoup d'isolement. Et certains de nos athlètes étaient des, ils sont encore des gamers. Donc, après discussion avec eux, on a décidé de lancer un projet pilote sur le sport électronique au sein de notre fédération sportive. Donc, quelque chose qui s'était jamais fait au Québec, là, même dans n'importe quelle fédération. Donc, et en discutant avec les athlètes, ils ont choisi le jeu Rocket League, là, qui est un jeu presque similaire au Power Chair Soccer où les athlètes doivent déplacer un véhicule pour pousser un ballon dans le but, un peu comme dans le sport réel. Donc d'où la naissance du projet. On l'a fait sous forme de projet pilote pour étudier un peu ce qu'on faisait, étant donné qu'on défriche un peu le territoire du sport électronique dans les sports traditionnels. Donc, on voulait étudier l'impact de notre projet, comme c'était les bons coups, les moins bons coups. Et donc, d'où l'idée de faire un projet pilote là, limité de 2 mois. Et pour ça, bien, on s'est entouré d'équipes d'universitaires. On a engagé un entraîneur pour structurer le programme aussi. T'sais, on est une fédération de sport, donc c'est dans notre ADN de structurer les choses. Donc, on a pris des athlètes, on les a encadrés avec des entraînements. On leur a donné un objectif, un tournoi qui s'est déroulé là, à la fin du mois de mars. Donc, les athlètes s'entraînaient dans le courant du 2 mois du projet en vue du tournoi qui était diffusé en direct sur Internet. Mm-hmm. Donc, on a vraiment tout testé, les phases ou les facettes du sport électronique, là, de l'entraînement virtuel jusqu'à la diffusion en direct du tournoi avec une équipe de professionnels. Donc, ça a vraiment été enrichissant comme projet. Puis Danny peut témoigner là,
ben oui,
des effets positifs qu'on a eus avec ce projet-là.
Oui, bonjour Danny.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez retrouvé dans ce tournoi-là qui vous a rappelé le Power Chair Soccer en termes d'atmosphère, de collaboration, de travail d'équipe?
En fait, vous l'avez dit, là, c'est la complicité, c'est de reprendre contact avec, avec d'autres. Je disais que, dans le fond, je ne les connaissais pas personnellement, mais c'est de reprendre le social, parce qu'on avait tous des micros. Mm-hmm. C'est ça, là, c'est...
C'est pour compléter un peu la réponse de Danny. Ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a mis une plateforme où est-ce que les athlètes pouvaient communiquer ensemble à tous les jours, puis là où est-ce qu'ils pouvaient aussi se réunir pour les entraînements. Donc, ça leur donnait l'occasion de se parler à tous les jours, de jouer ensemble en direct à travers cette plateforme-là. Puis, ça leur a permis de revoir aussi leurs coéquipiers, que ce soit de leur équipe régulière de Powerchair Soccer ou des autres équipes. Là, on n'a pas 70 athlètes au Québec de Powerchair Soccer, là, ils sont une trentaine. Donc, ils ont pu se recommencer à se côtoyer à travers cette plateforme-là sur une base quotidienne, même s'il y en a certains qui étaient confinés à la maison à 100% ou même en CHSLD. Là. Donc, on avait tous les cas de figure. Ça leur a donné l'occasion de socialiser. Dans le fond, notre objectif, c'était de voir est-ce qu'on peut réussir à les sortir de l'isolement. Puis ça, je pense qu'on a réussi à atteindre cet objectif-là quand même bien.
Ça a créé des nouvelles opportunités d'amitié aussi. Mm-hmm. C'est ça que je voulais mentionner tantôt.
Oui. Ça coupe un peu, Danny, ça, mais continuez.
C'est ça, je disais que moi, je connaissais mon équipe, c'est mon équipe pour la rive sud de Québec.
Mm-hmm, à Lévis.
De Montréal, donc ça a fait des nouvelles relations. Là, puis on joue encore ensemble en ce moment. Mm-hmm.
Même si le tournoi est terminé, je pense que le tournoi a bien été pour vous, Danny. Moi, j'ai vu des clips du tournoi, puis d'après le tournoi, puis vous avez été nommé le MVP officieux de l'événement.
Oui.
Est-ce que Rocket League, vous jouiez déjà Rocket League avant cet événement-là, ou c'est simplement votre nature de gamer depuis plusieurs années?
Ça faisait un an, là, comme que je disais, que j'avais pas vraiment joué.
Mm-hmm.
Mais j'ai joué quelques années avant, là, quand que le jeu est sorti.
OK.
Mais c'est ça, là, j'avais comme pris un petit peu ma retraite, comme on dit, de ce jeu-là, mais j'ai vraiment beaucoup joué, donc j'avais beaucoup d'expérience.
OK. Parce que,
ce qui est intéressant avec la participation de Danny, c'est qu'il a servi de mentor à certains joueurs aussi.
Oui, je comprends.
Donc, il a été dans les entraînements, il a permis à l'entraîneur de pouvoir aider certains athlètes qui en avaient besoin. Puis en même temps, pendant le tournoi, on avait essayé de faire des équipes égales quand même là, pour donner justement parce qu'on avait un écart de. Il y a des gens qui venaient juste d'apprendre à jouer, puis il y avait Danny de l'autre côté qui avait joué à très haut niveau.
Qui était en train de brûler l'écran, là. Alors fallait équilibrer ça un petit peu.
Exact. Donc, il a pu jouer avec quelqu'un qui commençait, mais ça lui a donné une belle expérience aussi d'interagir avec quelqu'un. T'sais, un de nos plus gros défis qu'on a fait face dans ce projet-là, c'était d'adapter les stations de jeu aux différents handicaps.
Oui, parce que c'est pas tout le monde qui va avoir la même facilité, dépendamment de comment la manette, comment c'est positionné, la lecture d'écran ou ainsi de suite. C'est un peu comme au Power Chair Soccer aussi, les types de situations d'handicap qui sont présentées sont assez variés.
Les fauteuils sont adaptés à l'handicap. Au Power Chair Soccer, le fauteuil est adapté à la personne, à ses capacités ou à son handicap.
Là, il fallait que la console soit adaptée, oui.
Exactement, avec des manettes spécialisées, avec des périphériques spécialisés. Puis vous voyez, le coéquipier de Danny, lui, il joue juste à une main.
D'accord.
On a été en mesure de tout lui trouver l'équipement parce que avec la pandémie, avec les délais courts qu'on s'était donnés, on n'a pas réussi à répondre à tous les besoins. Donc, malheureusement, il y a des gens là, qu'on n'a pas réussi à trouver l'équipement qui avait besoin et tout ça. Mais d'autres, on a réussi à leur fournir des équipements. Puis, on a pu, ils ont pu maintenant là, continuer à pratiquer le jeu vidéo de façon soit récréative ou compétitive. Mm-hmm.
Parce que vous ouvrez une porte. C'est la première fois qu'une fédération sportive fait un lien avec le sport électronique. Le sport électronique qui lui-même voudrait bien être reconnu davantage. Là, ça, c'est une autre problématique pour eux, mais vous leur avez donné quand même une visibilité, ce qui certainement est un pas en avant. Et en termes d'originalité, comment trouver une façon de garder vos athlètes impliqués pendant la pandémie? Ça, c'est une nouveauté parce qu'il y a beaucoup d'autres clubs sportifs qui ont essayé de faire des choses pour garder les gens impliqués. Mais faire des zooms après zoom, c'est une chose. Mais là, vous êtes capable de créer un tournoi.
Oui, ben exactement. On a fait quelques recherches pour voir est-ce qu'on était un peu les premiers à faire ça. Là. Donc, mm-hmm. on a vu, mettons, la Fédération de soccer canadienne, parallèlement, là, faisait des compétitions sur FIFA en ligne. Mm-hmm. Mais ils s'adressaient à monsieur, madame, tout le monde. Ils ne s'adressaient pas à leurs propres athlètes.
Exact.
C'est un peu la différence de notre projet. Donc là, nous, effectivement, c'était complètement original. Ou est-ce qu'on trouvait une façon nouvelle, mais controversée, il ne faut pas se le cacher. Là, les sports traditionnels et les sports électroniques là, ne font pas nécessairement de bon mariage dans tous les milieux. Donc, on a voulu un peu baisser ces barrières-là, ouvrir le dialogue. Donc, on a eu des conversations avec des fonctionnaires au ministère qui sont responsables des sports. Mm-hmm. Ça nous a permis d'avoir une belle visibilité médiatique quand même,
ben tant oui.
pour nos sports traditionnels que pour les athlètes. Là. Danny, c'est un exemple. Radio-Canada, Le Devoir.
Mm-hmm. Parce que le Power Chair Soccer, là, c'est pas tout le monde qui était au courant que ça existait puis que
ben,
c'était un sport
non,
joué internationalement.
C'est vraiment un peu... Je veux dire, dans le monde des personnes qui n'y a pas, c'est quand même connu.
Oui.
Tu sais, les personnes avec aucune handicap, ils disent, c'est quoi ça, tu sais.
Exact. Ouais. Ben, j'en sais quelque chose, Danny. Moi, je joue au hockey sonore, qui est la forme de hockey adaptée pour les personnes handicapées visuelles. Puis nous autres, on sait tout ce que c'est, mais le public en général dit, « Hein? Vous, des aveugles qui jouent au hockey? » Ça se peut pas. Comme d'autres personnes doivent dire, « Ah, Danny!
Ben, » c'est qu'il n'y a pas assez de visibilité. C'est parce qu'on n'en parle pas assez, c'est pour ça.
Exactement, tu as tout à fait raison. Est-ce que vous allez reprendre ce tournoi-là? Parce que ça a été un succès. Vos athlètes doivent en redemander maintenant.
Ben, c'est notre beau problème, là. C'est-à-dire qu'on a eu plus de demandes que de places qu'on avait ouvertes pour notre mm-hmm. projet pilote. Donc là, on est en train de faire parfois de tirer nos conclusions. Là. On travaille mm-hmm. avec une équipe d'universitaires pour collecter les données puis essayer de comprendre ce qu'on a fait avant de décider ce qu'on fait pour la suite.
Mm-hmm.
Là, c'est sûr, pendant ce temps-là, il y a comme un temps mort en ce moment. On a gardé notre plateforme où ce que les jeunes peuvent se réunir puis continuer
Parfait.
À jouer ensemble. Fait que ça, c'est toujours disponible. Maintenant, on regarde différentes possibilités pour l'été ou pour l'automne. Là. On a eu des communications avec...
Oui.
l'organisation qui s'appelle le DreamHack.
Parfait. Donc, on va suivre ça. Je m'excuse de vous interrompre,
Parfait,
Francis, mais c'est tout le temps dont on dispose. Mais Danny Audet, athlète de Power Chair Soccer, Francis Ménard, directeur général de Parasport Québec, merci. On se reparle.
Merci.
Bonne journée. Au revoir.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
De retour, nous sommes en compagnie de Mme Thérèse Sirois. Mme Sirois, vous êtes directrice régionale de La Ressource. La Ressource est un organisme à but non lucratif voué à l'intégration des personnes vivant avec un handicap dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Et cette année, vous célébrez votre 25e anniversaire par un tout nouveau projet en ballant. Bonjour, Mme Sirois. Ah! Nous n'avons pas Mme Sirois au bout du fil. Bien, ça va nous faire plaisir quand même, chers auditeurs, de vous parler un peu de La Ressource. La Ressource, c'est un organisme qui existe depuis 25 ans, je l'ai dit, qui est en fait comme une sorte de dernier recours. C'est comme la dernière ligne de front pour les personnes en situation d'handicap en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Île-de-la-Madeleine. Que ce soit... Ah, rebonjour. Madame Sirois, j'étais en train de parler de votre organisme avec beaucoup de cœur, mais je suis certain que vous allez le faire mieux que moi.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, merci. Ce que je disais, c'était que vous avez mis sur pied maintenant un nouveau programme de répit. Et on aimerait ça en entendre parler davantage.
Oui, en fait, c'est un projet qui nous tient à cœur depuis très longtemps.
Mm-hmm.
On a commencé à travailler sur ce projet-là en 2013, trouver des façons différentes pour certaines familles avec des problématiques plus particulières,
mm-hmm.
Afin qu'elles puissent avoir du répit. Donc, comme je vous le dis, en comité, puis suite à une demande d'un parent aussi qui a une jeune adulte maintenant, mm-hmm. Lourdement handicapée, on a commencé à travailler là-dessus, puis essayer de trouver de nouvelles façons. Et je vous dirais que tout a commencé à débloquer plus rapidement. On avait un comité avec le CI3S ici du Bas-Saint-Laurent, qui font partie intégrante là, du projet. C'est eux qui le subventionnent et tout ça pour que ça puisse fonctionner. On s'entend qu'on ne peut pas rien faire sans sous maintenant. Donc, c'est ça, avec le comité qui a été formé avec différents organismes de la région, on s'est rendu compte à un moment donné qu'il existait tout à fait le modèle qu'on voulait donner, permettre aux gens d'utiliser, qui s'appelle Baluchon-Alzheimer, que vous connaissez peut-être un peu plus dans la région de Montréal, parce que c'est un organisme qui est basé là-bas, mais qui rayonne là, au national. Ils sont présents partout. Donc, nous, on est entrés en contact avec eux, afin de voir la possibilité d'utiliser leur modèle, de travailler avec eux et tout ça. Puis après quelques mois là, de discussion, on en est venu à pouvoir enfin mettre sur pied ce projet-là. Fait que le principe est vraiment le même qu'avec Baluchon-Alzheimer. On va même partager les ressources de Baluchon-Alzheimer. C'est leur baluchonneur, baluchonneuse à eux.
Ça s'appelle le baluchonnage. En quoi ça consiste, le baluchonnage?
Bien, en fait, c'est, comme je le disais tout à l'heure, ça s'adresse à une clientèle très particulière. D'accord. Donc, ce sont des gens, des personnes, des enfants ou adultes, peu importe, qui, dû à leur situation de handicap, sont difficilement sortables de leur domicile. Soit qu'ils se désorganisent, soit qu'ils ont trop d'équipements, besoin de trop d'équipements spécialisés, tout ça dans leur transfert, et que ça devient comme impossible, là, qu'il n'y a pas d'autres ressources, pas d'autres façons de faire pour que les parents puissent avoir du répit. Fait qu'à ce moment-là, le baluchonneur arrive à domicile, prend en place contrôle de la maison, de la personne qui, avec qui ils vont interagir, ce qui permet aux parents, bien sûr, de pouvoir sortir un peu de la maison. Et ce sont des journées entre 4 à, ça peut aller jusqu'à 14 jours. Là, nous, pour le projet pilote qui dure un an, on a diminué un peu là, parce qu'on a 100 journées de baluchonnage durant un an à faire. Afin qu'il y ait qu'on puisse être équitable envers tout le monde, parce qu'on pense avoir au-delà de 130 quelques familles qui pourraient être admissibles à ce projet-là.
Qui pourraient en profiter, oui.
Oui, c'est ça, tout à fait. Fait que si on veut être équitable, on a diminué un petit peu le nombre de journées, mais somme toute, les gens qui vont aller à domicile, là, c'est des gens qui ont déjà toute la formation du côté avec Baluchon-Alzheimer, puis nous, on va poursuivre, on va terminer la formation pour notre clientèle à nous, mais ça s'adresse vraiment à des personnes soit en déficience physique, déficience intellectuelle, ou avec un trouble du spectre de l'autisme. Mais comme je le disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas dire une fin de semaine, je vais aller confier à ma tante, mon oncle chez eux.
Non, ça ne se fait pas comme ça.
On ne peut pas les sortir du domicile. Exact. Sinon, c'est ça, tout à fait.
C'est soit trop lourd ou on va les confier, on va demander à quelqu'un de la famille de venir passer le week-end à la maison, mais là, il peut y avoir des situations qui se présentent, puis la personne n'a malheureusement pas la formation adéquate pour bien réagir, puis là, ça déboule. Alors, c'est important qu'il y ait...
On sait qu'il y a des familles que c'est possible pour eux de partager, qu'ils vont avoir du soutien familial, qu'ils vont avoir de l'appui autour d'eux, mais il y a des familles qui, malheureusement, n'ont pas nécessairement de frères, de fratries, de parents qui sont encore là, présents, pour venir s'occuper de la personne qui, parfois, les handicaps sont quand même assez lourds. Donc, on sait qu'en agissant de cette façon-là, bien, ça donne une autre possibilité, si vous voulez, à une clientèle, à des gens qui ont des besoins très particuliers. Fait que ça, nous, on est super contents de ça. Il existe d'autres formes de répit là, partout au Québec, sous différentes formes, mais ça, cette façon de faire-là n'était pas répondue ici. Ce besoin-là n'était pas répondu ici dans le Bas-Saint-Laurent. Fait qu'on est bien content de pouvoir mettre ce projet-là en place.
Parce qu'il y a aussi, évidemment, votre bureau, la ressource, vous êtes basé à Rimouski, mais le territoire que vous couvrez est assez grand, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, jusqu'aux îles. Il doit y avoir parfois des difficultés, étant donné la faible densité de la population, de trouver les ressources et de pouvoir les amener là où ils ont besoin.
Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il faut user de beaucoup de débrouillardise, mm-hmm. Pour arriver là, à pouvoir répondre. Mais si on y va avec les services réguliers que la ressource offre, on y arrive bien quand même parce que les gens sont référés par des intervenants du réseau de la santé. Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut faire à distance. On a quand même deux bureaux en Gaspésie, du côté de la Gaspésie-Nord et dans la baie des Chaleurs. Des gens qui sont là pas à temps complet, malheureusement, mais qui sont là une partie de l'année afin de répondre aux services, aux membres. Et nous, ici, au bureau régional à Rimouski, c'est nous qui terminons les dossiers là, de chacun des membres. Fait qu'on s'organise quand même bien. Et pour en ce qui concerne le projet, étant donné que ce sont les baluchonneurs, baluchonneuses de Baluchon-Zamar qui vont aller sur le territoire, eux sont déjà postés partout. Il y a déjà toute une organisation autour de ça. Fait que ça permet de faire un beau projet, puis le faire rapidement, de mettre ça sur pied rapidement, parce que, comme je le disais au début, depuis 2013 qu'on travaille sur ce projet-là, parfois c'est très long avant de pouvoir mettre un projet sur pied de cette ampleur-là. Donc, de pouvoir le faire rapidement, je vous dirais que depuis en décembre, après le retour du congé des fêtes, tout a déboulé très, très rapidement là, pour la mise en place de ce projet-là, mais justement, il fallait aller chercher les bons atouts, les bonnes personnes pour que ça puisse commencer rapidement.
Et ça a commencé, vous avez eu vos premiers baluchonnages?
En fait, on n'a pas eu encore les premiers baluchonnages. On est dans la phase où les intervenants vont nous faire la référence, mm-hmm. parce que vous comprenez qu'un organisme communautaire, on ne peut pas connaître les besoins de tout le monde. Donc, par le réseau de la santé, c'est aussi la collaboration du CI3S, mais eux, tous les intervenants qui vont à domicile, qui connaissent les gens, qui connaissent les familles, vont rencontrer les familles à distance là, pour le aux circonstances, mais remplir un questionnaire avec eux, s'assurer qu'ils répondent aux critères d'admissibilité de ce projet-là, ils nous les transfèrent à nous, puis après ça, nous, on va pouvoir mettre en place les premiers baluchonnages. On s'attend que d'ici 4 à 5 semaines, les premiers baluchonnages devraient pouvoir commencer. Puis on s'attend aussi à une grosse demande durant l'été, c'est bien sûr, mais on devrait être capable, là, avec la collaboration de Baluchon, Alzheimer, de mettre en place là, rapidement, puis de pouvoir répondre à la demande là, qui va nous être faite.
Oui, parce que vous avez une demande latente qui est évidente. Les familles qui vivent des problématiques de situations d'handicap comme celle-là ont besoin de répit, ont besoin de se ressourcer, et d'autant plus dans une période de confinement et de pandémie là, où le stress est encore plus élevé. Et il faut rappeler que ce service-là est gratuit.
Oui, tout à fait. En fait, aux familles, ce que ça va leur coûter, c'est 15 $ par jour de baluchonnage. C'est vraiment les frais là, qui sont déjà fixés par le réseau dans d'autres domaines, si vous voulez. Mm-hmm. Donc, sinon, ben, nous, on essaie à la ressource, on veut prendre des ententes avec certains hôteliers, tout ça, là, qui sont ici dans le Bas-Saint-Laurent, pour permettre aux familles peut-être d'avoir un prix réduit sur une chambre ou quelque chose, d'essayer d'organiser quelque chose pour que ces gens-là, parce que parfois, les sous ne suivent pas nécessairement tout le temps, on s'entend, mais on veut essayer d'organiser, là, pouvoir leur proposer déjà quelque chose dans certains hôtels, des forfaits ou quelque chose comme ça, là, qui pourrait leur faciliter la tâche, puis qu'ils puissent profiter pleinement d'un répit tellement mérité.
Oui, qu'ils aient un vrai répit plutôt que simplement d'aller squatter chez le voisin. Puis ça fait peut-être pas l'affaire de tout le monde. Je comprends ça. Mais revenons un peu sur quand même ce qu'est la ressource, parce que ça fait 25 ans. On parle d'un projet qui est en forme de projet pilote aujourd'hui, mais depuis 25 ans, vous avez fait beaucoup de choses. Vous êtes impliqué jusque dans les ressources financières pour le soutien au logement. Parlez-nous un peu de vos activités.
Bien, en fait, la ressource, ce qu'on fait, c'est qu'on tente par tous les moyens de répondre aux besoins des personnes handicapées. Ce qu'on veut, c'est que ces gens-là puissent être intégrés dans la société, qu'ils aient leur place. Mm-hmm. On veut leur permettre de rester à domicile le plus longtemps possible, d'éviter d'aller en institution, c'est bien certain. Fait que ça se présente de différentes formes. C'est soit par l'achat d'équipements spécialisés, de l'aide financière, pour que parfois les gens ont besoin d'un équipement spécialisé. Le réseau de la santé, on le sait, ont déjà des programmes en place et tout ça, mais parfois les gens ne correspondent pas tout à fait aux critères d'admissibilité du réseau, qui sont quand même assez pointus. Par contre, il y a quand même un ergothérapeute ou un spécialiste qui dit, ben oui, moi, je considère que la personne a besoin d'un équipement X pour poursuivre sa vie, pour continuer à faire partie de la
communauté.
Population, si on veut, de la communauté et tout ça. Donc, c'est là que la ressource arrive en bout de ligne. Je vous dirais, on est le dernier maillon, mais on arrive à aider ces gens-là qui, parfois, ben, les équipements spécialisés, on sait que ça coûte cher. Les gens n'ont pas nécessairement les moyens de le faire. Fait que nous, on est là pour ça. On offre des sous également pour que les gens puissent aller fréquenter des camps de vacances ou faire des loisirs adaptés à leurs conditions. Il y a le programme de supplément au loyer, comme vous le disiez tout à l'heure, qui, nous, on est gestionnaire pour la Société d'habitation du Québec. C'est un programme qui permet aux personnes handicapées de vivre dans un loyer adapté à leurs conditions chez des propriétaires privés. Là, on s'entend qu'ils ne sont pas en HLM, mais ça leur permet, ça ramène le coût du loyer un peu comme si ils avaient un logement là, en HLM. Donc, ça ramène à un coût plus normal, si on veut, puis souvent...
C'est la gérer.
Oui, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Donc, on est beaucoup là, à ce niveau-là. On fait aussi partie d'à peu près toutes les tables de concertation là, qui existent dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie concernant la défense des droits des personnes handicapées. Ce qu'on veut, c'est faire entendre leur voix. Malheureusement, pour certaines personnes, pour certaines familles, c'est plus difficile parfois de sortir puis de faire entendre leurs besoins. Donc, on est comme un peu la voie de passage, si vous voulez, à ce niveau-là.
D'accord. Et vous êtes un organisme à but non lucratif. Et vous vous financez de quelle manière? Dans le cas du répit, là, vous avez eu un petit coup de pouce, mais c'est pas l'essence de votre budget.
Non, tout à fait. Le coup de pouce qu'on a eu, là, vraiment, c'est spécifiquement pour ce
budget-là. Projet, voilà.
Mais oui, c'est ça, exactement pour ce projet-là, oui. Le reste du temps, ben, nous, on a une activité annuelle qui est un téléradioton qu'on fait depuis 25 ans.
Un téléradioton, ça survit à la pandémie. Alors, ça, vous êtes capable de le faire. C'est pas comme le tournoi de golf ou le souper d'huître. Ben ça, c'est parce que c'est certain que, comme tous les autres organismes, un peu comme le vôtre, se trouver du financement dans un contexte comme celui qu'on connaît, c'est pas évident. Ben, je vous remercie beaucoup, Mme Sirois.
C'est moi qui vous remercie.
Vous pourrez nous reparler certainement de savoir comment le répit a fonctionné, parce qu'un projet pilote, ça veut dire que faut que ça décolle, puis qu'après ça, on puisse là, compter dessus année après année. Merci beaucoup.
Exactement, c'est ce qu'on souhaite.
Tout à fait. Ben, merci, Mme Sirois, directrice régionale de la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Île-de-la-Madeleine.
Ça, tu verras.
Kiki d'Hollywood, un titre, un tube de George Thurston que tout le monde connaît plutôt sous le nom de Boule Noire. Monsieur Thurston nous a quittés il y a déjà 14-15 ans, en 2007, à la suite d'un cancer qui lui a enlevé la vie à l'âge de 55 ans. C'était bientôt parce que c'est un artiste que tout le monde aimait. Les gens riaient toujours un peu de Boule Noire, mais tout le monde l'aimait. Alors, peut-être des fois, les gens trouvaient que le style disco s'était passé, puis ils voulaient se positionner comme quoi c'était au-dessus. Ils sont au-dessus de ça. Mais le fait que quand on écoute du Boule Noire, on se laisse charmer. Voilà. Christiane Campagna, on est revenu d'Hollywood. On était là la semaine dernière.
Oui.
Voilà, de retour. Bienvenue. Et cette semaine, où est-ce qu'on s'en va?
Bien, tout d'abord, on a appris une bien mauvaise nouvelle ce week-end. On a appris le décès de France Geoffroy, qui est la fondatrice, co-directrice artistique de Corpuscule Danse, qui a été... la première compagnie de danse intégrée au Québec. En fait, c'est elle qui a amené la danse intégrée ici chez nous. Elle s'est retrouvée en situation de handicap en 1991 suite à un accident de plongeon à la veille d'entrer au cégep en danse. Ensuite, ça a pris quelques années, mais la danse est revenue dans sa vie. Et suite à un séjour à Londres au sein de la compagnie Kandoko, elle revient ici avec le désir justement de lancer la pratique de la danse intégrée au Québec. La danse intégrée, c'est quand on, sur scène, on mélange au fond les danseurs qui ont un handicap et ceux qui n'en ont pas. Ils interagissent, le fauteuil fait partie intégrante de la danse même. Et donc justement, ensuite en 2002, pour favoriser l'épanouissement des personnes en situation de handicap, valoriser la diversité et l'inclusion, elle a intégré des activités d'enseignement à sa compagnie. On a pu voir d'ailleurs passer sur Facebook beaucoup de témoignages de parents dont les enfants ont pu danser. Elle a été aussi porte-parole de la Fondation du Centre de réadaptation Lucie Bruneau pendant 12 ans. Elle a siégé sur plusieurs conseils d'administration, Vision sur l'Art Québec, s'est impliquée chez Kéroul. Elle a reçu au cours de sa carrière de nombreux prix. Le prix Innovation Guy Langlois de l'organisme Altergo, le prix du gouverneur général du Vision Civile, le prix à part entière de l'Office des personnes handicapées du Québec et le prix Michael G. Fox du Conseil des arts du Canada. J'en oubliais, le prix Envol du Conseil des arts de Montréal aussi pour la diversité culturelle et les pratiques inclusives en danse. Alors, c'est vraiment un triste départ. C'est une femme qui était encore assez jeune. Mais vraiment, son héritage va être là parce qu'elle a fait naître des vocations. Elle a surtout contribué à faire reconnaître
la danse.
Cette danse-là, non pas comme, encore une fois, comme une danse-thérapie, mais non, comme une activité artistique à part entière.
Tout à fait. C'est un art, la danse, et tout le monde peut y participer, tout le monde peut s'exprimer par la danse. Et ça, c'est les barrières qu'elle a faites exploser.
Oui, tout à fait.
Alors, on lui sera toujours redevable et on espère que, d'une manière ou d'une autre, sa mémoire va être restée vivante là, par une manifestation ou par une autre. Mais la meilleure façon, ça va être de continuer à danser.
Absolument, tout à fait. J'ai vu passer aussi une nouvelle du côté du Service québécois du livre adapté. J'avais vu passer cette nouvelle-là en Europe récemment, mm-hmm. du côté de l'association Valentin Ahuy. Il s'agit d'une application qui s'appelle ABC, qui est l'abréviation en anglais, au fond, là, du consortium pour les livres accessibles, qui vise à mettre en œuvre le traité de Marrakech. Alors, l'idée, c'est de mettre en commun les collections des organismes qui offrent des services aux personnes qui ne peuvent pas lire l'imprimé et de favoriser les échanges entre les différents organismes. Alors, au cours des derniers mois, l'équipe de SQLA a participé à la phase de test pour peaufiner la nouvelle application avant le lancement officiel. Ça met en commun les collections, donc au fond, là, de l'Association pour le bien des aveugles et malvoyants en Suisse, l'Association mm-hmm. Valentin Ahuy en France, le Bibliothèque et Archives nationales du Québec, donc le SQLA, la Fondation ONCA et le CAEB, le Centre d'accès équitable aux bibliothèques. Donc, depuis le 15 avril, les abonnés du SQLA peuvent accéder à une offre numérique comptant plus de 63 000 titres. Oh. Donc, à terme, l'idée, là, c'est de joindre, l'ABC veut joindre à ce projet l'ensemble des bibliothèques membres, en fait, de pouvoir proposer plus de 600 000 titres.
Ah, wow! Ça, il y en a 600 000, ça fait... on en a pour une vie et on peut enfin avoir accès à des livres, peut-être des auteurs, dont on a un livre, peut-être deux, mais peut-être pas toute l'œuvre qui est adaptée, ainsi de suite. Mais ça, c'est extraordinaire.
Oui, on espère que ça va contribuer à adapter plus de livres parce mm-hmm. que en évitant des doublons, par exemple, auparavant, si un livre français devait être lu par un organisme ici et un organisme en France, faut espérer que ça, au lieu de mener à diminuer, parce qu'on a pu voir ça là, quand même, mm-hmm. à diminuer le nombre de livres adaptés ici, qu'on voit plutôt ça comme une occasion d'en adapter davantage et d'en rendre de plus en plus disponible et le plus rapidement possible aussi, pour que tout le monde ait accès aux livres le plus rapidement possible en même temps que les autres. Alors, on propose aux abonnés de SQLA qui veulent plus de renseignements sur l'application ABC, si vous voulez connaître les modalités mm-hmm. d'abonnement, pour communiquer avec l'équipe de SQLA par téléphone ou par courriel, et ils vont vous répondre à toutes vos questions.
Et on va avoir accès à ce catalogue-là. On va être capable de feuilleter, si je peux dire, le catalogue.
Voilà, tout à fait. Et on reste dans l'audio, mm-hmm. puisque Radio France et Humanware deviennent partenaires pour rendre les podcasts accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes. Alors, Radio France, qui est le premier producteur de podcasts en France, et Humanware, qui développe des solutions d'accessibilité pour les personnes non-voyantes, mm-hmm. Annonce la signature d'un accord de partenariat qui va permettre à Humanware de proposer les podcasts de Radio France dans sa gamme de lecteurs audio, les Victor Reader, et qui s'inscrit donc dans sa nouvelle politique de distribution proposée à tous ses partenaires, là, des partenaires de Radio France. Les utilisateurs pourront accéder gratuitement au même catalogue de podcasts que celui de Radio France. Donc, au lieu de devoir s'adapter encore une fois à un nouveau site web, par exemple, ils vont pouvoir tout simplement s'abonner avec leur appareil. Étant moi-même une consommatrice mm-hmm. assidue de balado, voilà. Faut dire que le plus qu'on peut s'abonner avec une seule application, mieux le plus c'est simple.
Ben oui.
Chaque fois qu'on ajoute des obstacles vers l'écoute d'un balado, ça nous décourage un peu, surtout quand on a l'embarras. Plus il y a de choix en matière de balado, parce qu'on voit de plus en plus cette exclusivité, là, vous êtes abonné avec iTunes, mais là, tel balado faut avoir Spotify
pour
l'écouter. Faut être vraiment motivé. Parce que sinon, ben, on va se contenter des balados offerts par notre propre application. Alors, pour les personnes qui étaient plus à l'aise avec ce produit-là, le lecteur Victor, qui est conçu spécialement pour les personnes qui ont un handicap visuel, ben, c'est une bonne nouvelle d'avoir accès à tout ce catalogue.
Ah, ben oui, parce que c'est souvent un peu spontané quand on se dit, là, j'ai un peu de temps à moi, j'aimerais trouver quelque chose à écouter. Ben, il faut que ce soit facile.
Oui, tout à fait. Maintenant, je vous invite à écouter Canal M.
Ah, ça, c'est une bonne idée, ça. C'est encore mieux que des balados, parce que souvent, c'est en direct où on peut réécouter des émissions qu'on aime, puis on a un vaste catalogue.
Voilà, on a le meilleur des deux mondes, puisque nos émissions sont disponibles quand vous voulez sur notre site web, mais aussi via diverses applications.
Assez, oui.
Je vous rappelle que tous les jours, à 10h15, Hélène Denis a des entrevues qui sont soit en lien avec le handicap, les aînés ou la santé mentale. Demain, on parlera au docteur Alexis Gagnon, qui va nous donner les derniers développements en matière de recherche pour la sclérose en plaques et aussi expliquer pourquoi cette maladie est si présente au Canada, où il y a vraiment un taux très, très important. Et mercredi, Hélène va parler au BDiste Jean-Paul Haide de la toute nouvelle bande dessinée qui s'appelle Le Petit Astronaute, qui est une histoire très, très personnelle. Le Petit Astronaute, dans la bande dessinée, c'est Tom, vu par sa sœur Juliette. Dans la vie, en fait, c'est Axel et sa sœur Mathilde, puisque le BDiste Jean-Paul Haide a son fils cadet, a une paralysie cérébrale et d'assez lourd handicap. Et c'est toute cette réalité-là qu'on découvre, mais d'une manière vraiment ludique. Alors,
ça, c'est mercredi.
Oui, voilà.
Mercredi matin avec notre coéquipière et collègue, Mme Hélène Denis. Ben, merci beaucoup, Christiane. En parlant de coéquipière et de coéquipier, j'aimerais remercier Christiane Campagna, notre recherchiste, et Jean-Sébastien Laliberté, notre technicien extraordinaire qui forme avec moi le trio de Sans détour et nous serons de retour la semaine prochaine, 10 mai.